Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça tombe bien, puisque le polar dans lequel nous allons plonger, véritablement plonger, puisque nous allons partir sur les traces des crimes, sur les traces, sur les lieux même que décrit Olivia Guérig dans son livre, et avec Olivia Guérig, hein, c'est une petite idée de Catherine Fadberg, qui s'est dit, tiens, je prends les auteurs, puis on va voir où sont passés les crimes, dans les appartements, sur les lieux. Donc là, c'est l'ogre du Salève. On sera donc à Genève, et on va faire un aller-retour entre notre époque contemporaine et les années de guerre. À Genève, à cause de l'assassinat, un double assassinat d'ailleurs, celui de Céline, qui a 17 ans, qui disparaît, puis celui du professeur Jean Pellet, fin connaisseur de l'histoire locale et résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va suivre cette histoire-là avec Catherine Fadberg et Olivia Guérig.
Lire.
Nous sommes ici, Olivia Guérig, au pied d'un château, un château un petit peu particulier qui apparaît sur la première page de votre roman. Qu'est-ce que c'est que ce château ?
Alors, c'est le château des Avenières qui a une longue histoire un peu particulière parce que son propriétaire l'a construit pour faire plaisir à sa femme qui est morte. Et en fait, on dit que dans ce château des Avenières, aujourd'hui encore, la femme hante les murs. Aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe dont il est question dans le livre à plusieurs reprises parce que je trouvais qu'il s'intègre très bien dans le paysage du roman au niveau de l'atmosphère, du lieu avec les arbres, la forêt. Et il n'est pas très loin de l'antre de mon ogre. Donc on verra certains passages de l'histoire se passent dans le château. Je trouvais que cet endroit, il avait quelque chose d'un peu magique. On entend les vaches. On est en automne, comme pendant le récit de l'ogre du Salève. C'est ça qui rend un peu les choses magiques, avec les arbres, un peu avec les couleurs dorées. Donc moi, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Et j'avais envie, je trouve que c'est un très bon lieu pour commencer la visite des scènes de crime, parce qu'on n'est pas très loin de la grotte du diable.
Il y a dans votre roman, Olivia Guérig, une histoire de transmission, de filiation. Les personnages n'évoluent pas comme ça pour rien. Cet ancrage historique a trait à la région, forcément, puisqu'on est ici au pied du Salève, on est ici à côté de Genève, en France voisine. Pendant la guerre, il s'est passé énormément de choses. Et cette histoire, cet ancrage-là, a des implications dans votre roman.
Tout à fait. Donc moi, c'était vraiment aussi une autre vision de l'histoire de notre région qu'on connaît un peu moins bien, de la région du Grand Genève, donc Genève et la France, puisque le Salève est quand même en France, mais qui réunit vraiment les deux pays parce qu'il y a la frontière. Et au temps de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, en fait, sur cette frontière. Et je pensais que c'était important de le rappeler, de le souligner. Pour moi, justement, l'histoire, elle explique, parce que le livre est aussi une recherche sur les origines du mal. Et pour moi, on ne peut pas expliquer le présent de façon correcte si on n'essaye pas de comprendre le passé. Et pour moi, il y a beaucoup d'implications psychologiques dans l'histoire des personnages qui font ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils sont devenus.
Regardons un peu ce paysage, Olivia Guérig. Décrivez-le-nous.
Alors vraiment c'est très très paisible, donc vraiment de la lumière avec un soleil brillant aujourd'hui. Il y a des vaches qui sont là toutes proches et derrière ce château magnifique avec qui sort complètement du cadre de l'endroit où on se trouve, qui est plutôt des pâturages agricoles avec un tracteur là qui est en train de je pense qu'ils sont en train de mettre du purin en fait. Et aussi les chasseurs qui sont dans la forêt toute proche. C'est l'automne et vraiment on ressent cette ambiance un peu particulière avec une lumière qui est magnifique.
Chasseurs, chassons, on a dans cette explication-là le policier évidemment qui part traquer, mais également ce personnage très particulier qui est l'ogre qui lui va aussi à la recherche de ses proies. C'est le prédateur absolu.
C'est ça, il part à la traque parce qu'il réfléchit, c'est exactement les victimes qu'il va attraper parce qu'il a un but précis en fait dans sa démarche. Donc effectivement, c'est le prédateur absolu et il commet un crime pour moi qui est vraiment un crime abominable, donc le cannibalisme. Donc il va choisir, il va traquer ses proies pour des raisons très très claires et précises en fait. Voilà, c'est oui, c'est le prédateur absolu, parce qu'il y a tout qui est planifié, il sait exactement ce qu'il doit faire, comment. Et
le mal absolu qui prend ses racines dans des expérimentations de la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Donc, il sait, donc le personnage, donc le criminel, le tueur en série, s'est inspiré des actions qui ont été commises par des célèbres, malheureusement, funestement célèbres docteurs et professeurs pendant la Seconde Guerre mondiale qui faisaient des expérimentations. Bon, je ne sais pas s'il y avait du cannibalisme, mais il y a quand même cette influence des expériences médicales horribles qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne.
Du coup, l'idée vous est venue de les transférer ici, dans ce cadre très paisible?
Oui, parce que donc, d'un autre côté, il y a vraiment le cadre aussi de la collaboration. Il y a des choses qui se sont passées qui étaient vraiment pas très jolies et qui étaient beaucoup moins paisibles. Donc rajouter encore le côté tueur en série, c'était un peu beaucoup. Mais c'est vrai que pour moi, c'était vraiment la recherche du mal absolu et d'essayer de l'expliquer et le mettre en exergue d'une certaine façon, essayer de comprendre. Parce que bon, je pense pas que j'y suis parvenue, mais... c'était d'essayer de donner un éclairage un peu psychologique, historique peut-être. Et le mal ne revêt pas toujours le visage le pire en fait. Comme vous pourrez le voir, mon assassin, mon tueur, mon ogre n'est pas vilain du tout.
C'est un joli jeune homme.
Ouais, justement.
On va vous proposer une lecture, Olivia Guérig, puisque nous sommes au pied de ce château avec tout un balai de voitures qui passent. Ils sont en train de réparer la terrasse, j'ai l'impression, ou peut-être de préparer une patinoire pour l'hiver, allez savoir. Je vous propose de lire la première page de votre roman.
Le château des Avenières, figure d'architecture gothique au milieu des pins, veillait sur ses hôtes endormis. Le fantôme de la demeure entamait sa ronde nocturne et trouvait son chemin dans les couloirs tapissés et les boiseries. Le fumet du repas gastronomique servi la veille emplissait encore les escaliers. Le calme semblait régner. Les arbres baignaient dans la lumière rassurante de la lune et se laissaient aller sous la caresse douce de la brise qui s'était levée lorsque le soleil avait fait ses adieux en se cachant derrière le Jura de l'autre côté du lac. Tout était propice à une soirée en famille passée auprès d'êtres chers dans la sérénité autour d'une bonne table, au son des couteaux et des fourchettes qui s'entrechoquent. Un repas, une véritable réjouissance pour les papilles. Le goût, la vie, la bonne chair, il n'y avait que cela de vrai. Cette pensée avait aussi traversé un autre esprit trouble quant à lui, qui se trouvait à quelques centaines de mètres de là. En effet, dans la grotte du diable, un feu était allumé. Les flammes vacillaient et se reflétaient sur les murs de l'antre. D'étranges ombres se dessinaient sur les roches, comme des centaines de visages pâles, de scalpes sinistres. La fumée qui s'échappait des entrailles de la terre avait une toute autre odeur que celle de la cheminée du château. Des zestes de mort, de pourriture, entouraient les volutes blanches qui sortaient de cette gueule grande ouverte, prête à engloutir tout promeneur imprudent, osant s'approcher des lieux et braver les secrets de la forêt.
On sent Olivia Guérig dans cet extrait. Vous posez déjà les personnages, hein. On est bien d'accord. On a le château, donc on a les lieux, on a senti l'importance pour vous des lieux. Et on a cet ogre qui ne trouve l'apaisement qu'en dévorant ses semblables. C'est une figure mythologique, l'ogre.
Oui, justement, donc c'était vraiment aussi cette image-là qui m'a traversé l'esprit, en fait, quand j'ai pensé à mon personnage. Mais il a rien de cet ogre, parce que, bon, il mange aussi des jeunes filles, enfin des enfants, mais il le fait pour une raison qui est beaucoup plus importante pour lui que ne le faisaient les ogres dans les contes de fées, qui dévoraient les enfants juste pour manger quelque chose et qu'ils ne pouvaient manger que ça. Alors que dans le cas de mon ogre, il y a vraiment une recherche derrière ce cannibalisme. Il y a l'idée de jeunesse, de s'approprier vraiment les victimes, de communier avec elles, et aussi une sorte de prise de pouvoir, en fait, qui lui a été transmise par quelqu'un auparavant. Mais c'est vraiment un des aspects importants, parce que l'image de l'ogre qu'on a dans les contes de fées, c'est un géant avec des grandes dents acérées comme ça, et c'est, dans mon histoire, c'est pas trop le même personnage, mais il fait la même chose.
On est proche de l'anthropophagie rituelle, des peuples, on va dire, exotiques.
C'est tout à fait ça. Il y a plusieurs aspects dans le caminimalisme. Donc, il y a l'aspect rituel, il y a l'aspect physique, donc vraiment que la chair humaine, elle apporterait des choses particulières, et tout ce côté mystique aussi, et de domination. Parce qu'il y a plusieurs types de cannibalisme, en fait.
On va aller dans l'antre du cannibale, on va aller dans l'antre de l'ogre, on va se rendre dans cette fameuse grotte du diable. On va prendre la voiture pour y aller ?
Oui, parce que c'est quand même à travers les bois, je pense qu'on y serait plus vite. Mais comme il y a les chasseurs en ce moment, je pense que ce n'est pas une très très bonne idée. On a quand même à peu près un quart d'heure en voiture, parce que ça fait un peu des zigzags à travers la montagne. Donc on y va ?
On y va.
Je peux vous montrer. Donc l'accès est libre. Moi, j'ai pas osé y rentrer l'autre jour parce que ça, il y a quelque chose qui m'empêche de rentrer dans cette grotte. Mais voilà.
Bon, c'est ce que vous y avez mis aussi dans cette grotte. Hein.
C'est exactement ça. Je sais pas si vous oserez descendre.
On va aller voir ça. Vous nous accompagnerez de toute façon. C'est pas baissé. Non, ça va, il a pas trop plu. Oupsie, quand même, ça glisse quand même, les cailloux, ça roule.
L'entrée de la grotte, elle est là sous. Elle est un peu cachée.
À pied, on est à combien de minutes du château des Avenières ?
À peu près une heure et demie, quelque chose comme ça, à mon avis.
Alors là, il y a un tas de bois. Donc là, on arrive, Olivia Guéric, devant votre grotte, devant cette grotte du diable. Elle était déjà nommée comme ça. C'est une grotte du diable qui accueille chez vous un ogre. Vous restez aussi dans tout ce qui est mythologie, finalement, les grottes des enfers qui accueillent le pire de l'humanité.
Oui, c'est ça, en fait. C'est une image aussi que les pires choses restent enfouies, en fait, sous la surface. Souvent, l'enfer, c'est sous la terre. Tout ce qui est mort est sous la terre aussi, dans la représentation. Et mon ogre, évidemment, il pouvait pas être ailleurs que dans une grotte, et qui plus est, avec un nom qui était un peu prédestiné, comme ça, la grotte du diable. Et c'est vrai que quand on arrive ici, on a un peu un drôle de sentiment. En fait, moi, ça me fait ça. Je me sens pas forcément super à l'aise. Aussi, le côté sombre, parce qu'elle est assez profonde, cette grotte. Moi, je suis jamais allée vraiment tout au fond. J'ai pas essayé de voir si mon ogre n'y était pas réellement, parce que j'ai un peu peur, je dois dire. Et de croiser des fantômes, j'aimerais pas trop. Mais quand on regarde autour, on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait un feu de camp, qui a peut-être voulu essayer de reproduire les repas de l'ogre, qui sait.
En tout cas, il a mangé du cochon, il paraît, d'après les cannibales modernes, que le cochon aurait le goût de l'humain.
Sérieux ? Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais lu ça aussi.
Ça vous dit ? On y va ?
On va faire quelques pas, il faut faire attention de ne pas glisser, parce qu'il y a pas mal de cailloux. On y va.
On y va. Hop, j'ouvre la voie, hein. C'est vrai que c'est vraiment c'est une vraie grotte, hein, avec plein de cailloux. Et ça descend pas mal, faut faire attention. Hop. Alors, hop, là ça va. Zouf. Vous dites qu'elle est très profonde, cette grotte-là. On est vraiment dans cette ambiance particulière. Et il y a pour votre personnage, il y a un des personnages qui arrive à s'enfuir. Ce personnage va retrouver la lumière. Il y a aussi cette notion de renaissance.
Tout à fait. Pour elle, c'est vraiment d'avoir fait face à la mort et de sortir de ce gouffre dans lequel elle était, dans l'antre de la mort. Et quand on dit souvent cette image que quand on vit une expérience de mort imminente, on voit la lumière, ben là, c'est un peu ça que j'avais aussi envie de décrire. En fait, elle arrive. Enfin, le symbole de la vie, c'est la lumière pour moi, dans le cas d'Emmanuel qui court.
On a de la peine à imaginer. Alors, dans cette grotte-là, il va se passer des choses abominables dans votre roman. Faites gaffe, pas vous tordre la cheville. Ce serait quand même dommage d'avoir quelque chose de grave dans cette grotte de l'ogre. Elle s'enfonce encore plus profondément derrière, hein, c'est ça? On va peut-être pas y aller, je suis d'accord avec vous. Il y a une ambiance un peu particulière. On n'a pas très très envie, vu qu'on n'est pas forcément bien équipé, d'aller lorgner de ce côté-là. On ne sait pas sur quoi on pourrait tomber. Vous allez nous faire une lecture, Olivier Guéric, on va remonter à la lumière. Et c'est au moment où le commissaire va découvrir ce qui s'est passé là-dedans.
Quand je viens ici, j'étais venue quand j'étais petite, en fait. Et j'étais revenue après, quand j'étais ado. Et c'était un endroit qui m'avait fait un peu peur. Et aujourd'hui, encore plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu le restaurant... À un moment donné, je ne sais pas combien de temps il est resté ouvert, juste au-dessus. Ben, il y a une atmosphère vraiment, je ne sais pas, ici, par ici, il y a quelque chose d'inquiétant qui m'a tout de suite frappé, en fait. Et oui, ben, le nom aussi, je le trouvais particulièrement approprié. Donc je me suis dit, ouais, c'est là que mon ogre il doit être.
On sent que vous êtes une écrivain qui est très émotionnel. Vous aimez rendre ces émotions-là dans le cœur du récit?
C'est ce que je fais. Pour moi, c'est le plus important de transmettre des émotions, des ambiances dans ce que j'écris. Donc même si c'est un polar, j'ai envie que les gens ils découvrent les lieux de la même manière que je les ai peut-être ressentis. Je ne sais pas, chacun a ses propres sentiments, mais qu'ils aient vraiment une impression en lisant mon texte, de se trouver sur place. Et c'est vrai que les retours que j'ai eus par rapport à l'ogre, ils étaient phénoménales. Parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils voyaient plus la montagne de la même façon, qu'ils s'étaient promenés, que ça les avait vraiment marqués, que parfois ils avaient peur, etc. Donc c'était vraiment assez rigolo d'avoir ces témoignages. Et beaucoup m'ont dit aussi que j'avais réussi à parler de ces lieux avec justesse et qu'ils avaient retrouvé en fait ce qu'ils connaissaient, donc que ça leur faisait plaisir de lire quelque chose sur des lieux connus quelque part par eux.
Mais pourquoi un polar? Parce que la littérature blanche peut aussi ouvrir à différents lieux. Là, c'est votre premier roman, c'était votre premier roman, Olivier Guéric, L'ogre du Salève. Polar, pourquoi?
Moi, j'étais passionnée justement par les romans noirs et les polars depuis que je suis petite. En fait, j'ai commencé par Agatha Christie. Bon, même avant, c'était le Club des Cinq, donc voilà. Mais j'ai toujours aimé le fait d'enquêter. Et j'avais vraiment l'envie d'écrire un polar. Et pour ça, j'ai fait des études de criminologie par correspondance à côté de mon travail pour pouvoir écrire de façon réel, avec des faits qui peuvent se justifier au niveau de l'enquête, en fait, de la criminologie. Et vraiment, c'est une passion. J'avais envie que les gens enquêtent avec moi et découvrent des choses et en même temps de l'ancrer au niveau local, parce que c'est quelque chose, moi, qui me touche et dont je peux mieux parler que quelque chose que je ne connais pas. C'était aussi dans un souci de véracité, d'ancrage dans le réel, parce que bon, c'est quand même une fiction, mais il y a quand même le réel et la psychologie et les aspects de l'enquête scientifique sont justes, c'est pas de l'invention, voilà.
On sent chez vous aussi effectivement, comme vous nous l'avez dit, ce besoin de raconter les choses vraies. Du coup, pourquoi avoir laissé passer autant de temps entre cet ogre du Salève et une suite possible, parce que vos personnages sont des personnages vrais, ils ont aussi leur vie propre, et vous les avez abandonnés pendant un moment?
Parce que j'ai eu dans ma vie professionnelle une mission qui m'a menée au Cambodge et qui m'a énormément touchée. Justement, là, il y a de nouveau la force du lieu, la force de l'histoire qui m'ont vraiment embarquée. Et quand je suis revenue de cette mission professionnelle au Cambodge, j'ai eu besoin d'écrire ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti. C'est de nouveau un peu le même, l'importance des gens qui m'entouraient, l'importance des sentiments, des ambiances, de ce que j'ai pu ressentir dans certains endroits, à Phnom Penh par exemple. Il fallait que j'écrive. Ça s'est imposé à moi. Donc il y a eu cette parenthèse cambodgienne. Et puis j'avais déjà commencé la suite, donc qui s'appelle Le Mage Noir, qui va bientôt paraître aux éditions L'Âge d'Homme, qui se situera aussi à Genève, bien sûr à Annecy, à Paris, à Morzine, vraiment dans la région genevoise. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche, parce que les enquêtes, elles doivent aussi se situer dans des endroits où, dans lesquels je suis allée et que je connais. Puis que les gens, ils viennent voir.
C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est venu voir cette grotte du diable. Olivia Guérigue, on va vous écouter. C'est la découverte. Alors, vous faites monter votre police scientifique, toute la police, par là en bas. Ils arrivent avec tout leur matériel à pied. Les pauvres, vous les plaignez beaucoup, en l'occurrence. Et votre, la jeune fille qui va s'échapper de cette grotte, parce que l'ogre ne mange que des jeunes filles, va partir d'ici jusqu'au château des Avenières. On vous écoute.
L'endroit qui ressemblait à une pièce était éclairé par d'innombrables bougies et torches qui se consumaient lentement. Certaines étaient déjà éteintes, d'autres venaient d'être allumées. C'était un hôtel macabre. Dans la lueur tremblante des flammes, les ombres de 13 crânes étranges, sombres témoins des horreurs commises en ces lieux, se reflétaient sur les murs gris et noirs. Disposées en rang d'oignons, ces marionnettes paraissaient prêtes à commencer un nouveau spectacle, une ronde macabre. Elles avaient été apprêtées et sommairement maquillées. On distinguait chez certaines d'entre elles des fleurs qui avaient été déposées dans leurs cheveux. Rouillée et Justine restèrent de longues secondes immobiles. Une larme roula sur les joues de Rouillée lorsqu'il vit la 13e pique et y découvrit un visage qui devait aujourd'hui être familier à la France entière. Il eut le prénom gravé sommairement à même le bois. Céline. Ils restèrent muets pendant quelques minutes, la doctoresse ayant pris délicatement la main du commissaire. Peut-être faisait-il une prière, peut-être rendait-il secrètement hommage à ces malheureuses jeunes filles auxquelles la vie avait été arrachée d'une manière aussi atroce et barbare. Ils avaient pénétré dans l'antre de l'ogre.
Nous avons relativement peu parlé de vos personnages, Olivia Guérigue. Vous êtes très émue.
Oui. Non, ça fait très bizarre de lire les passages ici, en fait, parce que je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois et c'est vrai que je suis quelqu'un de très sensible. Donc effectivement, ça me touche parce que c'est mon premier roman. Ça me touche d'être ici avec vous et d'en parler sur place. Puis bon, c'est vrai que c'est un passage aussi assez fort parce qu'on voit justement mon commissaire Rouillé qui est une brute en fait, comme ça, un peu brute de décoffrage, un peu grognon, pas très aimable, un peu solitaire comme ça, qui tout d'un coup laisse sortir ses émotions. Et c'est aussi ça, je pense, qui me touche dans ce passage-là. Parce que donc, il y a aussi ce rapprochement avec la profileuse venue de Belgique et cette sensibilité qu'il a tout au fond de lui, mais qu'il a essayé de cacher parce que dans son métier, il n'a pas le droit de montrer qu'il est sensible à ce qui se passe. Donc, c'est ça qui me touche aussi.
Donc vos personnages, Olivia Guérigue, je vous propose que nous en parlions dans le prochain lieu que nous allons visiter, qui est un cimetière. Ne partez pas, Olivia Guérigue. On est dans le bon cimetière ?
Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé parce que on dirait qu'ils ont tout goudronné. Donc il y a eu un peu des travaux de rénovation qui ont été faits. Donc je reconnais plus trop les lieux comme ils étaient quand j'ai écrit le livre. Du coup, ça fait un peu bizarre parce qu'il y avait avant c'était du gravier et ils ont goudronné. Donc ça change quand même l'atmosphère, mais le cimetière est bien le même.
C'est le cimetière de Saint-Blaise.
Oui, tout à fait.
Et c'est là, dans ce cimetière, que va se dérouler l'ultime étape de votre ogre.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, Aurore, mon inspectrice, va venir là pour se recueillir sur une tombe un peu spéciale. Et là, elle va tomber sur quelque chose de complètement inattendu. Il va se passer une rencontre, il va se passer quelque chose d'assez atroce dans ce cimetière. Mais je pense qu'en même temps, il y a aussi la notion de vie et de mort qui revient. Parce que donc, il y a le souvenir, il y a beaucoup de choses. Parce que la personne qu'elle vient voir ici a une histoire très très difficile. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle se rend dans ce cimetière, pour rendre hommage à cette personne particulière. Et,
Moi, je vais vous interrompre, Olivia Guérigue, parce que ce personnage qu'il vient voir, pour moi, est un personnage important. C'est le personnage de Mathilde. Elle a un prénom. Et ça va être pas une rescapée de la guerre, ça va être une des victimes de cette guerre et une victime de guerre de clochers aussi, victime de la vindicte populaire. Et ça, c'était, on le sent à travers tout votre roman, ces personnages historiques qui remontent, et ça vous permet aussi de mettre en lumière des victimes un peu de côté, parce que cette fille a couché avec un Allemand.
C'est ça, et je trouvais que c'était un aspect dont on a très peu parlé dans ce qui a été relaté par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et j'ai trouvé ça horrible. Quand j'ai lu des articles, des livres, des passages de livres qui ont relaté l'histoire de ces femmes françaises qui ont eu des relations amoureuses avec des soldats allemands, ça m'a beaucoup touchée, et j'avais aussi envie d'intégrer cette notion, et aussi l'idée de la réputation qui est très importante dans les villages, ce qu'on peut faire par rapport à quelqu'un qui ne rend pas l'image qu'on souhaiterait qu'elle ait, et la gravité des faits que la vindicte populaire peut provoquer, donc la mort de quelqu'un dans le cas de Mathilde.
Elle se fait tabasser à mort avec son bébé dans les bras.
Exactement. Il y a aussi des histoires horribles de délation et de collaboration où des gens sont morts dénoncés par leurs propres voisins. Donc c'était quelque chose dont j'avais aussi envie de parler, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus.
Ça fait un roman avec beaucoup de lectures, beaucoup de clés de lecture.
Oui, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Et je pense que le passé, là, il est presque plus important que l'intrigue en elle-même, parce qu'il nous permet de comprendre l'enquête qui se déroule dans le présent.
On est dans ce cimetière de Saint-Blaise où est enterrée Mathilde, en tout cas dans votre roman. Parmi toutes ces tombes, c'était laquelle que vous aviez choisie ?
Alors là, ça a un peu changé. Alors, j'avais pas vraiment de choix particulier, mais je le voyais plutôt de ce côté-là du cimetière, en fait, du côté de la montagne, donc contre le mur. Mais il n'y a plus de gravillon. Donc, c'était une tombe très plate.
On va aller la voir, cette tombe. Même si ce n'est pas forcément celle de Mathilde, mais en tout cas dans la fiction, ça l'est. Et encore un petit peu de gravier. Une petite tombe toute sobre, avec le corps mis en bière. Effectivement, c'est une tombe à taille d'un humain, taille d'une humaine en l'occurrence. Vous allez nous lire le passage.
Aurore, les yeux fermés, concentrée face à la tombe, c'était comme coupée du monde extérieur. Elle avait fait une promesse et elle la tiendrait. Il n'y avait plus que quelques mètres qui séparaient le monstre de la jeune femme. Il bondit sans faire de bruit. Lorsqu'Aurore comprit ce qui était en train de se produire, il était déjà trop tard. La lame du couteau dans les mains de l'ogre l'avait atteinte dans le dos. La douleur était si intense qu'elle s'écroula sur la tombe, perdant connaissance. Le sang rouge vif d'Aurore se répandait sur la pierre grise et terne pendant que l'ogre éclata d'un rire sardonique qui semblait sortir du fin fond de son esprit dérangé comme une folle révélation. En plantant le couteau dans le dos de la jeune femme, il avait pu entreapercevoir et lire le nom de la personne à qui la sépulture était dédiée, et cela ne fit que d'accentuer sa colère. C'était la tombe de sa grand-mère.
Olivia Guérig, c'est au pied de cette tombe qu'on va se dire au revoir, nous, et que vous vous dites au revoir en partie à vos personnages pour mieux les retrouver après. C'était pas facile de les laisser pour vous?
Non, c'était difficile de les abandonner parce que je m'étais vraiment attachée à chacun d'entre eux, même à l'ogre. Donc c'était très difficile simplement d'écrire la dernière ligne du roman et puis de se dire, voilà, maintenant leur histoire, elle m'appartient plus. Elle appartient au lecteur, mais bon, moi, ça me fait plaisir, justement, de partager ça. Et puis, bien sûr, de partager la prochaine. J'espère qu'ils me suivront, qu'ils suivront les aventures d'Aurore, puisque Rouillé est parti à la retraite. Qui sait, il va peut-être revenir, mais ça, c'est pas dit. Mais en tout cas, Aurore, elle est dans les prochaines aventures.
Merci, Olivia Guérig.
Merci à vous, Catherine.
Voilà, c'était donc le livre d'Olivia Guérig que nous suivions sur les lieux mêmes de l'aventure L'Ogre du Salève, paru aux éditions Encre Fraîche. Demain, Catherine Fadbert rencontrera Marc Woltenhauer et nous serons dans les Alpes vaudoises. côté de Grillon, peut-être bien. Oh, on pourrait être à Berlin, Stockholm, on pourrait être dans beaucoup d'endroits, hein, avec l'inspecteur Andreas Hauer, qui est le héros de ce livre. Mais on sera, je crois, du côté de Grillon. C'est un livre, Mais qui a tué Heidi, paru aux éditions Slatkin & Co. Donc demain, ne manquez pas, si vous aimez le polar, ne manquez pas de nous rejoindre. Et puis je vous rappelle donc que Lausanne Noire, le festival du polar, se tiendra ce week-end à Lausanne.